d'accueillir des conférenciers ici. Et là, j'avoue, à titre personnel, je le suis encore plus ce soir d'accueillir Henri Dudet dans un lieu qui diffère très très fort du lieu où on s'est rencontrés pour la première fois, puisque avec le mode de vie spartiate qu'il peut avoir, à l'époque, il campait au mois de janvier au fond d'une carrière, pas très loin d'ici, dans une fouille. Donc ici, il fera un peu plus chaud pour
Il fait même trop
un peu trop
chaud.
chaud pour cette soirée. Donc Henri Dudet est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Sa carrière s'est particulièrement déroulée à Bordeaux. Alors je suis plus très sûr du nom qui a changé un certain nombre de fois, c'est toujours Laboratoire d'anthropologie
Oui, des
des
populations du
populations
passé,
du
mais peu
passé.
importe.
Voilà. Et il a reçu en 2005 la médaille d'argent du CNRS. Henri Dudet est médecin de formation.
Mais tous mes patients sont morts.
Voilà, depuis longtemps, ce qui évite les problèmes de conscience. Et il a fortement contribué au renouvellement de l'anthropologie physique avec des moyens d'investigation qui doivent plus à la médecine légale qu'à l'archéologie traditionnelle. Et son champ de recherche est très large, puisqu'il s'étend des sépultures collectives du néolithique aux morts de la guerre de 14-18, avec comme intermédiaire l'Antiquité et le Moyen Âge aussi, évidemment. Il a également, c'est un point important pour les autres archéologues, et il a également formé ou contribué à la formation de la plupart des archéologues, des anthropologues de terrain qui travaillent aujourd'hui en France. Et a une exceptionnelle capacité à raconter de manière drôle les histoires les plus macabres. Je vous laisse en juger maintenant.
Oui, peut-être. Attends, celui-ci, on peut.
Vous prenez celui que vous voulez.
Peut-être.
Voilà, celui que vous voulez aussi qui marche.
Est-il.
Oui.
Mais peut-être qu'il faut couper celui-ci, alors je ne sais pas.
Donc, ne vous inquiétez pas.
Bon. Très bien. Bon. Bien, je vais donc ce soir vous parler de pathologie, de paléopathologie. Mais je dois vous prier de m'excuser, je ne vous parlerai pas spécialement de Moyen-Âge. Je veux dire par là que quand on m'a demandé si j'acceptais d'intervenir, bon, j'ai répondu qu'effectivement, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'archéologie médiévale et que je serais bien en peine d'illustrer complètement mon propos avec des exemples tirés de sépultures médiévales, même en tirant un peu de chaque côté pour étendre le champ du Moyen-Âge. Bon, vous verrez que beaucoup des sites dont je vous parlerai sont des sites beaucoup plus anciens, quelques-uns beaucoup plus récents aussi. Mais après tout, s'il s'agit d'une réflexion sur la manière dont on peut aujourd'hui aborder la pathologie des populations passées à partir de la fouille, je pense qu'il n'y a pas lieu de se cantonner spécifiquement à telle ou telle période. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, je ne vous parlerai pas spécialement de Moyen-Âge. D'autre part, la paléopathologie. Alors, la paléopathologie, plus précisément la pathologie des populations anciennes, évidemment, on peut l'aborder à partir je dirais, de données de nature extrêmement différente. Il est clair que pour les temps historiques, nous avons soit des représentations, soit des descriptions d'individus avec des difformités, avec des symptômes de maladies. Nous avons aussi des traités de médecine médiévale, antique, etc. Donc, c'est tout un champ extrêmement important. Vous savez aussi, vous connaissez aussi sans doute les représentations dans l'Amérique précolombienne d'individus difformes, présentant des gibbosités, etc. Enfin, on a des informations relativement précises. Ce dont je vais vous parler, c'est évidemment de la pathologie telle qu'on peut l'aborder à partir de l'étude des squelettes que les fouilles nous livrent. Vous comprenez donc que c'est quand même quelque chose de singulièrement réducteur. D'abord parce que le squelette enregistre, certes, le souvenir, la marque d'affection qui ont frappé l'individu durant sa vie. Mais vous vous doutez bien que, par exemple, à partir d'un squelette, on ne portera jamais le diagnostic d'infarctus du myocarde. ou de cancer du pancréas. On imagine bien qu'il y a une quantité très importante de maladies qui ne laissent pas de traces sur le squelette et qui donc sont inaccessibles au diagnostic paléopathologique dans le champ que j'évoque, et notamment pour la protohistoire ou pour la préhistoire. Bon, ça, c'est très important. Autre point en préambule, la manière dont la paléopathologie a fonctionné. Évidemment, la paléopathologie, c'est de la pathologie, donc c'est une science médicale. Et pour faire des recherches dans ce champ, il faut évidemment avoir une formation médicale ou travailler régulièrement en partenariat étroit avec des médecins, avec des services hospitalo-universitaires. Mais, d'une manière générale, ça se passait d'une manière qui était... Enfin, c'était, je pense, engagé sur un dysfonctionnement. Je veux dire par là que l'archéologue fouille. Au bout d'un certain temps, si l'archéologue a l'habitude de fouiller des sépultures, il remarque que tel ou tel os est différent de ce qu'il voit d'habitude. Il se dit, bon, c'est peut-être le signe d'une maladie. Les os sont ensuite confiés à un anthropologue qui, lui, connaît en général mieux le squelette et qui va isoler davantage de pièces, qui va repérer un certain nombre de pièces présentant des lésions souvent plus discrètes, moins évidentes. Et ces pièces étaient transmises à un médecin. Alors, je vous l'ai dit, ça, en général, ce n'est pas un dermatologue, ce n'est pas un neurologue, un psychiatre. Il s'agit d'un rhumatologue ou d'un spécialiste d'orthopédie. Enfin, vous imaginez bien que... d'un radiologue, éventuellement, bien sûr. Mais les spécialités sont évidemment des spécialités qui touchent à l'os. Une catégorie à part, ce sont évidemment les odontologistes, puisqu'on trouve aussi de la pathologie dentaire. Bon. Et le pathologiste recevait les os, et en fait, à partir du moment où il avait reçu les os, il développait le discours de son propre champ scientifique, c'est-à-dire qu'il allait se préoccuper de donner un diagnostic pour telle ou telle affection. Et puis, pratiquement, ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que on a des publications de paléopathologie. Pendant très longtemps, on a eu des publications de paléopathologie qui étaient plutôt, je ne dirais pas un musée des horreurs, mais qui étaient la description de cas particulièrement spectaculaires, si vous voulez, avec une curiosité médicale. Or, évidemment, la pathologie, c'est quelque chose qui, génère des lésions qui doivent être repérées. On va voir donc qu'il y a une importance des observations de fouilles. On va voir que les observations de fouilles permettent souvent d'affiner le diagnostic, mais la pathologie, par ailleurs, c'est quelque chose qui a une dimension sociale. Il est bien évident que la maladie, la mort, si j'ose dire, font partie de la vie des populations passées. Et il peut être extrêmement intéressant, du point de vue historique, d'essayer de connaître, par exemple, la place qui était faite aux infirmes dans les populations anciennes. Surtout si on remonte à des temps très anciens. La pathologie n'a donc pas simplement une valeur de curiosité médicale. La pathologie, c'est aussi quelque chose qui a une dimension sociale. Et évidemment, une dimension sociale, avec le recul du temps, c'est tout simplement une dimension historique. Donc, nous nous sommes préoccupés d'essayer, en quelque sorte, d'organiser un retour assez systématique des observations paléopathologiques en direction de la connaissance ethnographique des populations passées, c'est-à-dire ce que nous essayons de faire, je dirais, par les divers aspects de la recherche archéologique. En ce sens, la paléopathologie s'inscrit résolument dans une perspective archéologique. Ce n'est plus une curiosité de cabinet médical qui s'applique à des os, certes issus de fouilles, mais déconnectés du chantier de fouilles. Il s'agit bien d'une réflexion qui doit rejaillir, autant que faire se peut, dans notre appréciation de ce qu'était la vie des populations passées. Donc, la place des observations de fouilles, on va le voir dans le diagnostic, mais aussi, bien sûr, la dimension historique de la pathologie. Alors, la première image que je vous montrerai va justement illustrer cette question de l'importance des observations de fouilles. Là, vous avez une sépulture mésolithique. Donc, vous voyez, on est très loin du Moyen-Âge. C'est une sépulture qui a à peu près... elle doit avoir à peu près 8000 ans, que j'ai fouillée avec donc, les personnes dont vous voyez le nom en bas, à Bonifacio, donc à la pointe sud de la Corse. On est tout à fait à la base du remplissage d'un abri qui montre une stratigraphie de 6 mètres de haut. Et tout à fait à la base, il y a la sépulture d'une femme adulte qui a été inhumée donc, au Mésolithique. Alors, par les observations de fouilles, j'ai pu restituer la position des mains. Dans la mesure où le sédiment s'est refermé au fur et à mesure de la décomposition du cadavre, le sédiment s'est en quelque sorte refermé sur les os. C'est un cas assez exceptionnel. C'est-à-dire que les os des mains sont restés dans une position qui correspondait exactement à l'attitude qu'avaient les mains au moment du dépôt. Ce n'est pas si courant. C'est dû au fait qu'on a des sables très fins, des sables presque impalpables, qui proviennent de l'érosion de la voûte, de l'abri. Et la main gauche était dans une position très particulière. Ce n'est pas une photographie de la main de cette femme. C'est une photographie actuelle, bien entendu. Vous voyez cette position de la main gauche comme ceci. En fait, elle était redressée dans le sol comme ceci. Or, il se trouve que, si je peux dire, Luc a évoqué un peu mon cursus, ben, dans une vie antérieure, j'étais neurologue au centre hospitalier de Montpellier, au CHU de Montpellier. Et ça, c'est une position de la main que je connaissais bien. C'est la position que prend spontanément la main quand il existe une paralysie d'un des nerfs moteurs de la main qu'on appelle le nerf cubital. Aujourd'hui, en nomenclature, on dit le nerf ulnaire. Bon, peu importe. C'est un des nerfs moteurs de la main. Et à partir du moment où ce nerf est paralysé, évidemment, il va y avoir un déséquilibre entre les muscles atrophié et les muscles fonctionnels, et il y a une attitude qui est dite attitude vicieuse, c'est la griffe cubitale, la griffe ulnaire, les doigts en hyperextension au niveau de l'articulation métacarpophalangienne, mais les deux derniers doigts fermés en griffe comme ça. À la fouille, je constate que la main de cette femme est dans cette position. Mais après tout, il faut bien qu'elle soit dans cette position, ça ne suffit pas pour prouver que cette femme a souffert d'une paralysie ulnaire. Mais vous avez ici son ulna gauche, son cubitus gauche, et ici, vous voyez un petit renflement qui, de profil, se voit mieux. On se rend compte qu'il y a ici cette espèce de renflement fusiforme, et sur les radios, ça ne fait aucun doute, on voit très bien la fracture avec le déplacement du fragment distal. C'est une fracture très antérieure au décès, puisque le cale est parfaitement... cicatrisée, régularisée. Très longtemps avant sa mort, cette femme s'est fait une fracture de l'extrémité distale du cubitus gauche, de l'ulna gauche. Bon, elle a réparé sa fracture et elle a survécu pendant longtemps. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est que la fracture distale de l'ulna est, en pathologie actuelle, l'une des causes les plus fréquentes de paralysie ulnaire. Pour une raison très simple, c'est que le nerf chemine directement au contact de l'os. Et évidemment, s'il y a un élément qui percute l'os et qui le fracture, ou si l'os va taper contre une arête vive, ben le nerf, en quelque sorte, peut être pris entre le marteau et l'enclume et peut être sectionné ou écrasé, ce qui génère une paralysie. Alors on se dit, tiens, c'est quand même étrange, elle est dans une position qui correspond à la paralysie ulnaire et il se trouve justement qu'elle a subi pendant sa vie une fracture dont on sait qu'elle est une cause fréquente de paralysie ulnaire. Ceci, ce sont ces troisièmes métacarpiens, donc les os qui sont au milieu de la paume de la main, en amont du médius. Le droit est normal, le gauche est à peu près normal, mais vous voyez sans doute qu'il y a ici un petit renflement fusiforme. Et de profil, c'est beaucoup plus évident. Vous voyez le droit et vous voyez que le gauche est un peu plus arqué, avec une zone de flou qui, là encore, correspond à un cale. C'est-à-dire que longtemps avant sa mort, cette femme s'est aussi fracturée le troisième métacarpien. Alors, est-ce que c'est le même accident ou un autre accident? Évidemment, je n'en sais rien. On constate quand même que les deux se trouve dans la même portion, si vous voulez, à l'extrémité distale du membre supérieur gauche. Ça, ce sont ces cinquièmes métacarpiens, lorsqu'il est en amont du petit doigt. Et même si vous n'êtes pas spécialisé en ostéologie, si je vous dis que celui-ci est normal, que le droit est normal, vous voyez tout de suite que le gauche ne l'est pas. Il est raccourci, il est élargi, il est déformé, sa surface est extrêmement tourmentée. Et de part et d'autre de la tête c'est la partie qui s'articule avec la phalange, avec la base du petit doigt. De part et d'autre de la tête, vous voyez deux expansions, deux espèces d'oreilles. Et si je me mets à la place de la phalange, donc ici, vous avez le droit et du côté gauche, on voit ces expansions qui, à l'évidence, correspondent à l'ossification des ligaments latéraux de l'articulation. Or, dans la paralysie ulnaire, pendant un temps, la griffe est dite passivement réductible. Alors, je suis désolé parce que je fais comme ça. La griffe est dite passivement réductible, c'est-à-dire que dans l'examen, on peut ouvrir. Le patient n'a plus sa motricité, mais soit avec son autre main, soit le médecin qui examine peut ouvrir les deux derniers doigts sans difficulté. Au bout d'un certain temps, la griffe s'ankylose, c'est-à-dire que les ligaments commencent à s'ossifier. Et c'est ce que vous avez là. Donc là, on a la preuve certaine du fait que la lésion était une lésion réelle, chronique, que cette griffe n'est pas une position particulière, si vous voulez, de la main prise au moment de l'inhumation, on a bien la preuve qu'il s'agit d'une position chronique qui s'est installée, qui s'est bloquée très longtemps avant le décès. Voici les radios. On voit que le gauche est complètement densifié. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce métacarpien a été complètement broyé. C'est-à-dire que là, on n'a plus un cal transversal. C'est l'ensemble de l'os qui est un cal. L'os a été écrasé et il s'est consolidé avec un dépôt de matière osseuse engainante. Et de profil, vous voyez également ceci, avec d'ailleurs une petite pastille osseuse plus claire qui correspond à ce qu'on appelle un sésamoïde. Un sésamoïde, c'est un os qui coulisse dans les tendons des muscles fléchisseurs des doigts, qui coulisse contre la tête des métacarpiens. Il est évident que si le sésamoïde est englobé dans le cal, ça prouve que le muscle n'avait plus aucune course. C'est encore une preuve absolue de l'ankylose. Alors, vous voyez, ça commence à se refermer. Et on sait que dans les paralysies, on a un phénomène de déminéralisation. Alors, à l'époque, je travaillais donc au centre hospitalier de Montpellier et au laboratoire de biophysique, on testait un appareil qui appartient à la préhistoire de la médecine. Bon, c'était il y a très très longtemps, évidemment. Vous voyez la couleur de ma barbe, vous comprenez bien que ça s'est passé il y a bien longtemps. Et c'est un appareil qui permettait de mesurer directement la charge de minéral de l'os par unité de surface. Ça appartient à la préhistoire de la médecine parce que maintenant, c'est le scanner qui fait ça et c'est une voie de recherche qui a été complètement abandonnée. Mais au moment où on a fait cette étude, le scanner, ça n'existait pas et ça avait fonctionné. Alors, on a une source de rayons gamma, si vous voulez, constante. L'os défile à vitesse constante ici et ne riez pas, au-dessous, ça, c'était un ordinateur. Bon, ce qu'on appelait un ordinateur. Mais enfin, bon, il y a 35 ans, donc évidemment, ça a beaucoup changé. Eh bien, malgré tout, si je prends les métacarpiens, vous avez en rouge la main gauche envers la main droite, le premier, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Vous voyez que systématiquement, l'os gauche est moins minéralisé que l'os droit. On a simplement une égalisation pour le cinquième, parce que au cinquième, on l'a vu, il y a un cal. Et la réparation de l'os a fait un dépôt de matière minérale qui a rechargé. À la moitié de l'os, on a la même chose. Vous voyez, le premier métacarpien droit est plus minéralisé que le gauche. Le deuxième, même chose. Au troisième, égalisation, mais on sait pourquoi. Il y a la fracture transversale au milieu du troisième métacarpien. Donc, dépôt de matière minérale, ça compense la déminéralisation. Ici, de nouveau, le droit supérieur au gauche. Et enfin, inversion pour le cinquième, tellement le cinquième a été broyé et s'est transformé globalement en cale. Alors, vous voyez, finalement, tout part du constat de la position qu'occupe la main dans le sol. Ça, c'est la responsabilité du fouilleur. Ou le fouilleur s'est enregistré ça. Évidemment, il ne sait pas forcément l'interpréter, mais ou bien le fouilleur enregistre le fait que la main est dans cette position, et après on peut discuter, ou bien l'information est définitivement perdue. Donc là, on comprend bien que la paléopathologie est très conditionnée, le diagnostic paléopathologique est conditionné d'une manière déterminante par l'aptitude qu'aura le fouilleur à faire des observations sur la position réciproque des os dans le sol, et donc l'aptitude qu'il aura à restituer la position anatomique. Alors, cette brave dame n'avait pas que ça. Cette brave dame, vous la voyez, vous voyez ici son maxillaire droit. Elle a un kyste apical à la racine donc de l'incisive centrale supérieure, maxillaire gauche, pardon, centrale supérieure gauche. Elle a d'énormes dépôts de tartre. Au niveau de sa colonne vertébrale, elle a ce qu'on appelle des hernies intraspongieuses. Bon, vous connaissez les hernies discales. Les hernies discales peuvent aller latéralement. Elles peuvent avoir tendance à s'enfoncer dans le corps des os. Ça peut déterminer des lombalgies, mais en fait, ce n'est pas tellement ça. Ça, c'est souvent asymptomatique. À la cheville, elle a les séquelles d'un traumatisme important avec un ostéome ossifié. Et au niveau de son gros orteil gauche, elle a une arthrite interphalangienne. Et ça, je vous garantis, c'est l'équivalent, si vous voulez, ce n'est pas une goutte, mais ce sont les douleurs de la goutte. La goutte déclenche des arthrites interphalangiennes. Et vous savez que la goutte a quand même la réputation d'être une affection particulièrement douloureuse. Donc vous voyez qu'on commence à l'habiller, hein, elle commence à avoir pas mal de choses. Ajoutez à ça que cette brave dame, au niveau de ses talons, ça ce sont ses calcaneus, c'est-à-dire les os du talon. Le droit est normal et vous voyez que le gauche est complètement remanié. Je ne vais pas insister. On se rend compte que il y a une hypervascularisation, vous voyez tous ces trous, et que cette hypervascularisation est très étendue. Si vous comparez les deux os qui apparaissent par les faces symétriques, vous voyez tous ces pertuis vasculaires qui signent le fait qu'il y a une inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, qu'on voit aussi en profondeur par ce flou sur la radiographie, ça correspond à l'inflammation chronique, je ne vais pas entrer dans les détails, de ce qu'on appelle une bourse séreuse. C'est la structure qui permet le glissement du tendon d'Achille sur l'os dans le déplacement. Je pense que certains d'entre vous ont l'expérience malheureuse d'un conflit entre votre pied et le contrefort d'une chaussure neuve, un peu trop rentrant, un peu trop rigide. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont connu ces désagréments. Ça devient vite très rouge et c'est très gênant. Ça, mais ce que vous ressentez à ce moment-là, ce sont les conséquences d'une inflammation de la bourse de glissement entre le tendon d'Achille et la peau. Il y a une autre bourse entre le tendon d'Achille, en avant du tendon d'Achille, entre le tendon d'Achille et l'os. Et ça, c'est infiniment plus douloureux encore, c'est-à-dire que c'est une lésion extrêmement invalidante, surtout pour marcher en terrain accidenté. Or, on est avant le néolithique, c'était des gens qui allaient collecter des coquillages dans les rochers, qui traquaient une espèce de petit lapin qu'on appelait le Prolagus sardus, bon, que l'homme a fait disparaître. Enfin, c'était une économie de prédation. Et donc, cette femme, évidemment, était extrêmement handicapée pour se déplacer. Et ça aussi, c'est une lésion chronique. Alors, si on synthétise, ben, finalement, bon, vous voyez qu'elle a quand même beaucoup de choses. Vous verrez en plus tout à l'heure qu'elle devait avoir une haleine épouvantable, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et naturellement, cette femme était donc une infirme. Et ça veut dire que forcément, elle était inapte à l'acquisition de ses moyens de subsistance. Et donc, ça nous amène à la notion de prise en charge d'un infirme à l'intérieur d'un groupe. Alors évidemment, pour des périodes récentes, ça n'étonne guère. Mais là, on commence à être dans une préhistoire relativement profonde, relativement ancienne. Et le statut des infirmes à l'intérieur d'un groupe humain, pour moi, c'est une information qui a une dimension historique. Pour moi, c'est aussi important que de savoir comment ils taillent leur silex ou autre chose. Ça n'est pas plus important, mais c'est un autre volet, une autre facette de la vie de ces hommes du passé. Alors, on a deux exemples. Un qui est beaucoup plus spectaculaire encore, c'est un exemple qui a été publié par Jean d'Astugue, qui a été le père de la paléopathologie en France, pratiquement, et sur une femme du néolithique ancien d'Algérie, d'une grotte d'Algérie. Il a diagnostiqué des séquelles d'une fracture avec des lésions nerveuses évidentes, parce que les orifices sont fermés, etc. Et il est certain, c'est cicatrisé, il est donc certain que cette femme était à la fois grabataire et incontinente. Eh bien, entretenir dans une population du néolithique ancien une grabataire incontinente, c'est quand même une notion de relation entre les individus qui n'est pas du tout évidente a priori. Quand on se demande ce que sont ces populations, quelles sont les relations entre les individus, là, vous avez un témoignage. Évidemment, c'est un éclairage. On n'a pas de vision synthétique. On a des éclairages disjoints, mais ce sont des informations, évidemment, tout à fait précieuses. Et alors, plus encore, Eric Trinkaus, qui est un chercheur américain, a fait connaître un anthropologue américain, a travaillé en Irak, c'est l'époque où les Américains allaient en Irak pour autre chose, enfin bon, et il a étudié un néandertalien, enfin une série de néandertaliens trouvés dans une grotte d'Irak qui s'appelle Shanidar. Et il y a un sujet polytraumatisé, avec des fractures multiples. Il est absolument évident que pendant la convalescence, ce sujet était grabataire. Pas après, mais donc il y a eu des semaines, peut-être des mois, durant lesquelles ce sujet a été alimenté par les gens du groupe. Et la prise en charge d'un infirme dans une population néandertalienne, ben, ça éclaire peut-être d'un jour différent cette étape de l'humanité. Enfin, ce n'est pas exactement en ligne directe, mais enfin, ce type humain, les conditions de vie de ce type humain. C'est-à-dire que par rapport à l'image de bestialité, de brutalité que l'on attribue, enfin d'ailleurs de façon tout à fait exagérée, mais que l'on attribue volontiers à ces lointains hommes préhistoriques, ben, le fait de se dire, ah ben oui, mais quand il y en avait un qui était bien malade ou bien handicapé, on le nourrissait, on s'occupait de lui, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, on en a des exemples multiples. Là, évidemment, c'est beaucoup moins étonnant. Il s'agit d'un os coxal, donc d'un os du bassin gauche d'une femme du XIIe siècle en Gironde. Et en fait, cette femme a eu une luxation traumatique de la hanche, c'est-à-dire que la tête du fémur est sortie, elle est allée se coincer sous le muscle psoas-iliaque, et vous voyez qu'elle a marché, et elle a fini par se refaire une cavité articulaire sous le muscle. Alors vous imaginez le raccourcissement, ça fait un raccourcissement d'à peu près 5 cm, donc elle boitait de façon considérable. Elle a survécu, elle était très, très handicapée, elle a survécu et elle a même entretenu sa fonction. C'est-à-dire que là, on commence à avoir aussi des informations sur l'attitude du patient par rapport à son propre handicap. Ici, vous avez une sépulture du néolithique ancien que nous avons fouillée avec Didier Bender, en arrière de Menton, dans la montagne, ça domine la mer, mais on est déjà à plus de 700 mètres d'altitude. Vous avez un individu en position contractée, eh bien, déposé sur le côté. Si vous regardez ses membres inférieurs, ben, on voit tout de suite que son fémur droit, bon, il est recassé après la mise en place dans la sépulture, mais on voit bien qu'il y avait eu des fractures avant. Pratiquement, si vous vous intéressez au mobilier, il a un fémur Louis XV. Hein. Complètement. Et une fracture ici, elles sont réparées. Hein. Ne tenez pas compte de ça, c'est après la déposition, c'est aphonomique, mais on se rend bien compte qu'il y a un cale ici, il y en a un autre ici. Bon, donc ça, c'est une double fracture du fémur droit consolidé, avec un raccourcissement considérable, et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'arthrose de la hanche, qu'il n'y ait pas d'arthrose vertébrale, puisque forcément cet individu a beaucoup boité après. Eh bien, la réponse, elle est là. C'est que ça, c'est le fémur gauche, avec cette lésion en baïonnette, incroyable, Il y a une fracture avec un déplacement de 9,5 cm latéralement. C'est-à-dire que le même jour, il s'est fracturé probablement les deux fémurs. Alors, si le raccourcissement des deux membres a été simultané, il est comme ça, puis tout d'un coup, il s'est trouvé comme ça. Bon, il a réparé sa fracture. Et donc, il ne boitait pas parce que les deux membres avaient la même longueur, mais les deux fémurs avaient chacun perdu 7 ou 8 cm, quelque chose comme ça. Alors, en plus, c'est quand même effroyable parce que là, la cicatrisation, le cal qui est monstrueux, n'a pas été complet et il s'est formé ce qu'on appelle une pseudarthrose, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du cal, les os bougeaient un petit peu. C'est-à-dire que quand il se mettait en appui sur son fémur, bon, évidemment, vous avez le genou, mais il avait presque un genou à mi-hauteur du fémur. Ça devait bouger un petit peu du point de vue fonctionnel. Vous imaginez, il ne devait pas galoper, le bonhomme, après, hein. Et donc, là aussi, en tout cas, la cicatrisation de ça, c'est 3 à 6 mois d'immobilisation absolue. 3 à 6 mois pendant lequel il faut le nettoyer, le nourrir, enfin l'alimenter, l'abreuver, etc., enlever les matières fécales, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de totalement, totalement grabataire. Donc, vous voyez que dans les conditions de vie, il n'y a pas... Ce n'est pas simplement une curiosité médicale, c'est vraiment une information sociale, de mon point de vue. Alors, vous voyez ces fractures, enfin, c'est absolument effroyable quand vous voyez ces déplacements. Et là, vous avez la pseudarthrose avec les deux parties, et vous voyez cette nouvelle cavité articulaire qui s'est faite. Cette partie vient s'articuler là-dedans, à mi-longueur du fémur, et quand il marchait, ça devait faire un peu comme ça. Il avait un fémur accordéon, si vous voulez. Bon, c'est. Je pense que ça ne faisait pas de musique. À moins qu'il fasse aïe, aïe, chaque fois. Bon, mais sinon, bon. Alors, des lésions comme ça, on en a quand même d'étonnantes. Bon, là, on est dans... En fait, ce sont des autres qui ont été récupérés à la vidange d'une fosse commune du XVIIIe siècle à Pézenas. Là, je vous ai mis un fémur droit en vue postérieure normale. Vous en avez un autre ici. J'ai mis la partie supérieure dans la même position. Ça s'est cassé là. Et le sujet s'est ressoudé. La diaphyse du fémur qui partait comme ça, c'est-à-dire que le bonhomme était comme ça. Comment voulez-vous qu'il marche ensuite? Donc, après, ça, ce sont évidemment les gens qu'on voit représentés sur les tableaux de Bosch, etc. Enfin, là alors, vous avez... enfin, au 18e, évidemment, on sait que ça existe. Et puis, quand je vous parlais de l'attitude du patient par rapport à sa maladie, l'arthrose, c'est une maladie du cartilage. Le cartilage s'use et finit même par disparaître. Et à ce moment-là, si le sujet entretient la fonction, malgré la douleur, ça va frotter os contre os. Donc ça s'use. Et l'organisme réagit en fabriquant de l'os pour compenser. Conclusion, ça s'use. Vous voyez l'os spongieux qui apparaît. Mais en même temps, pour une articulation comme le genou, qui est une articulation unidirectionnelle, qui ne fonctionne que dans ce sens-là, vous voyez que le frottement os contre os sculpte les surfaces osseuses, on dirait que c'est travaillé autour. Et en plus, vous avez ce qu'on appelle le polissage articulaire, l'éburnation, c'est-à-dire que l'os prend l'aspect de l'ivoire parce qu'il se densifie et il se polie. Ça, c'est la preuve du fait que l'individu, malgré son arthrose très évoluée, a continué à faire travailler son articulation jusqu'à donner des images qui sont absolument incroyables. Enfin, quand on voit ce remodelage, on dirait vraiment que ce sont des os manufacturés. On dirait des éléments de tabletterie tels qu'on peut en trouver dans les tombes romaines, enfin des pièces de lits funéraires ou des choses comme ça. Mais là, non, c'est le polissage de la rotule sur la face antérieure du fémur. Alors, on parle de l'attitude des gens vis-à-vis des infirmes, des infirmes par rapport à, ou des malades par rapport à leur infirmité, plus ou moins grande. Il y a aussi des questions éventuelles de thérapeutique ou de connaissances médicales. Là, vous avez des images qui concernent une fouille que j'ai faite dans une grotte néolithique près de Montpellier, sur le rebord des Cévennes. Bon, une avène, une grotte sépulcrale où on a les restes d'environ 80, à peu près 80 individus. Ça a 5500 ans. On a trouvé, voyez que tous les os sont mélangés. Les rites funéraires font que, après la décomposition, on range les os, on les déplace, etc. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'image des squelettes en place, comme on peut voir, par exemple, dans les cimetières médiévaux, souvent. Là, il y a une gestion beaucoup plus complexe. Eh bien, là-dedans, à la fouille, nous avons vu apparaître cet os, qui est un numérus droit, qui apparaît en vue postérieure. Donc, par derrière. Or, cet os, manifestement, est très court. Il mesure 208 mm de long, un peu moins de 21 cm. Or, un adulte de 1,40 m, ce qui est tout petit, a en moyenne un numérus qui fait 24 cm. Conclusion, ou c'est un nain, ou c'est un individu qui a une atrophie du membre. En fait, on n'a pas du tout... Maintenant, la fouille est terminée. On a sorti plus de 12 000 os humains de cette cavité. On n'a pas trouvé d'autres os qui présentent cette brièveté. Et les caractéristiques morphologiques, avec cette tête complètement écrasée ici, cette forme très particulière, les caractéristiques morphologiques permettent de dire que c'est très probablement une destruction pendant la croissance, une destruction du cartilage de croissance entre la tête et la diaphyse de l'os. Donc le diagnostic ne pose pas de problème. Mais si vous regardez l'extrémité inférieure, celle qui correspond au coude, sur la face postérieure, en arrière, l'os est normal. Mais sur la face antérieure, vous voyez toute une série de petites incisions qui ont été analysées au microscope électronique à balayage par une de mes collègues au CNRS, une de mes amies qui a un nom prédestiné, elle s'appelle Françoise Lemort. Bon, Françoise a établi sans aucun doute qu'il s'agissait de découpes au silex. Section du tendon du biceps, section du corps du muscle brachial, et on a des insertions ligamentaires. Alors souvent, quand on trouve ce genre de choses, on parle de boucherie, sur les os d'animaux, on parle de découpe. Alors, il y a des gens qui parlent d'anthropophagie. Il y a des gens qui parlent de rites de sépulture secondaire avec décharnement des individus. Mais il est quand même troublant de constater que le seul os sur 12 000 qui présente des traces de découpe, c'est justement l'os qui, dans la morphologie extérieure de l'individu, crée la difformité la plus évidente. Donc, pour moi, beaucoup plus probablement, ça, c'est une autopsie néolithique. C'est une nécropsie, c'est un contrôle anatomique après le décès de l'individu. Alors, ça peut paraître énorme, mais en même temps, dites-vous bien que ces gens-là, je vais vous montrer deux images qui correspondent à des sites contemporains et de la même région, ben, ils sont capables de faire des trépanations comme ça. Et ça, c'est une trépanation cicatrisée. Et là, le sujet n'a pas survécu à l'intervention. C'est pour ça qu'on voit les alvéoles du tissu spongieux qui est à l'intérieur du crâne. Alors que là, ça s'est fermé, c'est cicatrisé. Ça, c'est un dolmen de Provence. Et ça, c'est une grotte sépulcrale de l'Aveyron. Et vous voyez la taille gigantesque de ces trépanations. Ces gens-là étaient capables de faire des trépanations au silex comme ça. Alors, vous savez... À partir de ce moment-là, s'ils sont capables de faire ça, l'idée d'un contrôle anatomique, ce n'est pas du tout une aberration. D'autant plus que Jean d'Astugues, le même, celui que j'évoquais tout à l'heure, dans une grotte sépulcrale, ou plus exactement un hypogée fouillé à la fin du XIXe siècle, dans les collections du baron de Baille, a étudié un crâne où on voit très bien le praticien néolithique qui commence... l'opération selon la technique qu'on connaît bien, puisque vous comprenez bien que quand des gens sont morts en cours d'intervention, on a encore les traces des outils. Et parfois, on a les rondelles de trépanation qui ont été retrouvées, et parfois même, ils les portaient en pendentif. Alors bon, il est perforé, puis il se promenait avec... Ce serait bien, une prothèse de hanche, et puis vous vous promenez avec votre tête fémorale ici. Bon, ça serait... C'est pas d'un goût exquis, mais enfin, bon, c'était... Apparemment, ça se faisait parfois. Eh bien, il se trouve que le patient meurt en cours d'intervention. On voit très bien, le chirurgien commence avec la technique de raclage, et puis le patient meurt en cours d'intervention, et le praticien change d'outil, et probablement avec un burin, quasiment, il découpe. il décalote complètement, probablement pour voir ce qui s'est passé, pour voir. Donc, je veux dire, imaginez que ces gens-là fassent ou aient pu faire des contrôles anatomiques. Pour moi, ça n'est pas du tout une aberration, d'autant qu'il semble avoir existé de véritables écoles de chirurgiens, de trépaneurs, si je peux dire, sur les rebords du Massif central, le rebord méridional du Massif central. Ils étaient particulièrement doués. Ils trépanaient à tour de bras, je dirais. Bon. Mais on a aussi des trépanations sur des animaux. On a l'impression qu'ils s'entraînaient, enfin qu'il y avait un apprentissage. Donc... dans ce domaine-là, l'idée qu'ils aient pu faire ce genre de choses ne me choque pas beaucoup. Alors, pour parcourir, c'est un grand galop que je vous fais un peu dans les divers aspects. Vous avez vu que dans cette grotte sépulcrale, on n'a plus squelette par squelette. On a des os complètement mélangés. Donc, on va étudier la fréquence de telle ou telle lésion. On n'est pas capable de dire ce sujet avait tel, comme on a fait pour la dame de Bonifacio, ce sujet avait ceci, avait cela, avait cela. Là, vous avez tant de tibias qui présentent des anomalies, tant de fémurs qui présentent des anomalies, mais vous ne pouvez pas souvent les mettre en relation. C'est encore pire, évidemment, quand vous travaillez sur les incinérations. Parce que dans les sépultures à incinération, dans les bons cas, ça c'est à Classe, donc c'est à Ravenne, au sud de Venise, une fouille à laquelle je participe d'une nécropole romaine. Là, vous avez le contenu de l'urne avec les os brûlés. Mais dans les sépultures, là, ce sont les nécropoles de l'âge du fer, du premier âge du fer dans la région de Castres. Et là, vous voyez que les os sont terriblement fragmentés, terriblement déformés. Vous comprenez bien que le diagnostic paléopathologique sera beaucoup plus délicat en raison même du traitement que le cadavre a subi au moment des funérailles. Il n'empêche que sur un autre site dont vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Pompéi, sur un autre site donc sur lequel je suis amené à travailler... j'ai été amené à travailler dans les dernières années, nous fouillons un enclos funéraire d'une des nécropoles de Pompéi. Évidemment, vous voyez que c'est plutôt bien conservé, c'est cet enclos. Eh bien, dans une des tombes, la tombe 17, évidemment, moi, j'étudie les os qui sont dans les urnes, eh bien, vous avez ceci, et ça, en fait, c'est un col du fémur. Il faut imaginer que la tête fémorale était là, c'est un col du fémur, avec la diaphyse, donc le fût, qui partait comme ceci. Ce relief est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle le petit trochanter, mais ça, c'est une anomalie. Ce que vous avez là, c'est une espèce de bulle, c'est une tumeur qui avait poussé sur le col fémoral, qui a éclaté au moment de la crémation, mais ça, c'est l'attache de la tumeur sur le col du fémur. On la voit sous diverses faces, et... il se trouve que c'est un homme adulte jeune, de moins de 30 ans. Le sexe là, a pu être déterminé, parce que les os sont très très bien conservés. On a la forme du bassin. La clavicule n'est pas encore tout à fait complètement ossifiée, donc on sait qu'il a moins de 30 ans. C'est un homme qui est mort, et il a une tumeur qui est probablement une tumeur maligne, ce qu'on appelle un ostéosarcome, et il est très possible qu'on ait là la cause du décès. Donc, vous voyez que même sur les crémations, c'est évidemment plus rare qu'on puisse porter des diagnostics, mais on arrive quand même, de temps en temps, à obtenir des informations significatives. Alors, j'en reviens à Madame de Bonifacio, puisque finalement, là, on commence à aborder la question, mais après tout, quelles sont les causes de la mort ? Alors, de quoi est morte notre handicapée de Bonifacio, celle qui avait la main comme ça, etc. Eh bien, vous avez ici son crâne, enfin ce qu'on appelle le bloc crânio-facial, par la face telle qu'elle est apparue à la fouille. Mais de l'autre côté, la face qui était au fond de la fosse, puisque la tête était tournée vers la droite, la face qui était la face du crâne, donc l'autre côté du crâne qui était plaqué sur le fond de la fosse, s'est écrasé et les fragments étaient entrés à l'intérieur de la boîte crânienne. Vous le voyez ici sur la tête reconstituée. Vous vous rendez compte qu'il y a un énorme fragment de crâne brisé à ce niveau-là. Et après tout, s'agit-il d'une cassure qui s'est faite après la mise en place du corps dans la sépulture, ou s'agit-il d'une énorme fracture du crâne qui a causé la mort. Peut-être qu'ils en avaient assez d'entretenir cette vieille personne et qu'au bout d'un certain temps, bon, on l'estourbit pour se débarrasser de quelqu'un de particulièrement encombrant. Alors, on le voit ici aussi, hein, vous voyez ce grand trait de fracture. Et donc, le morceau avait basculé vers l'intérieur de la boîte crânienne. Quand j'ai vidé la boîte crânienne, quand j'ai nettoyé, il y avait du sable, puisque je vous ai dit, le sédiment encaissant, c'est du sable. J'ai enlevé le sable, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la totalité de la surface endocrânienne était tapissée par une pellicule cristalline extrêmement fine. Elle fait 2 dixièmes de millimètre d'épaisseur, qui épousait parfaitement tous les reliefs endocraniens. Il y a des empreintes de vaisseaux, par exemple, à l'intérieur des pariétaux. Ça suivait parfaitement. Et il n'y a aucun grain de sable qui était pris dans ce dépôt cristal. Il y avait aussi de ce dépôt cristallin sur la face endocranienne du morceau qui était là. Or, ce dépôt, donc je l'ai prélevé, on a fait une diffraction de rayon X, et le spectre qui est apparu, c'est de la calcite. Il n'y a pas de maladie qui fabrique de la calcite au niveau des méninges. Ça n'existe pas. Conclusion, il s'agit de dépôts après la mort. En fait, on a mis en place le cadavre dans la tombe. Elle était comme ça. L'eau de pluie a percolé au travers des couches de sédiments calcaires qui sont au-dessus. Elle s'est chargée en carbonate de calcium. Elle a ensuite, elle s'est infiltrée au travers de l'os de la paroi crânienne et à l'intérieur de la paroi crânienne, à l'intérieur de la boîte crânienne qui était vide, l'eau s'est évaporée et on a ce dépôt cristallin qui s'est fait exactement comme dans les grottes, les stalactites, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant très longtemps, la boîte crânienne a été un tout, a été une boîte fermée, étanche et sans sable puisqu'il n'y a pas de sable. Conclusion, l'enfoncement de ce morceau, c'est un enfoncement qui est survenu bien après, sans doute sous la pression des sédiments. Donc vous pouvez éliminer l'hypothèse selon laquelle on l'aurait estourbie d'un coup sur la tête. Elle n'est pas morte de ça. On connaît quand même peut-être la cause de sa mort. Parce que ça, c'est sa mandibule. Vous avez toutes les dents en place, sauf la première molaire inférieure droite. Et à l'emplacement de la première molaire inférieure droite, vous avez une énorme cavité avec des trous vasculaires très nombreux. Ça, c'est un abcès énorme. C'est une ostéite, c'est une infection de l'os. C'est donc un abcès, une infection énorme, si vous voulez. Or, la dent, je l'ai trouvée, brisée en 3 fragments, et anciennement, puisqu'on a du tartre sur les plans de clivage. Mais quand vous remettez la molaire en place là-dedans, en alignant évidemment la face occlusale, la face masticatrice sur les autres, vous réalisez que les racines n'ont plus aucun contact avec l'os alvéolaire. Autrement dit, au moment de la mort, la molaire baignait complètement dans le pu. Quand je vous disais qu'elle devait avoir une haleine épouvantable, et elle baignait complètement dans le pu, ce qui veut dire... Or, ça, c'est, en médecine, c'est ce qu'on appelle un séquestre. C'est-à-dire que quand on a un élément dur comme ça pris dans une collection plus ou moins liquide, ça s'évacue assez rapidement. Ça veut dire donc que cette femme avait une infection sévère en cours d'évolution, au moment où elle est morte. Or, avant l'antibiothérapie, c'était les gros abcès pouvaient être une cause de décès parce qu'il y a des communications vasculaires entre la face et l'endocrâne. Et si vous avez des lâchers de bactéries qui partent de l'abcès pour aller à l'intérieur de la boîte crânienne, alors là, c'est autre chose, c'est méningite ou encéphalite et ça aboutit très souvent au décès de l'individu. Conclusion, évidemment, je n'en sais rien. Elle a pu mourir d'un infarctus entre-temps. On peut lui en rajouter aussi, si on veut. Mais enfin, en tout cas, là, on a quelque chose qui peut cadrer avec la cause du décès. On n'en est pas certain, c'est possible. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion sur les causes de la mort, là, vous avez une vue aérienne d'un site qui est un éperon barré. Donc un éperon en relief avec un grand fossé à ce niveau-là qui barre. C'est une fouille qui a été faite par Patrice Birochaud et Jean-Marc Large. Et c'est un site qui a été occupé au néolithique. C'est en Vendée. Hein, c'est les châteliers du Vieil Osé. Donc c'est un groupe qui s'appelle le Peu Richardien. C'est du néolithique récent. Le long de ce fossé, de cette tranchée qui barre, il y avait une tranchée, puis il y avait évidemment un rempart en arrière de la tranchée. Le long de ce fossé, à un moment donné, ils ont construit un tertre, de terre très fine. Et dans ce tertre, il y a trois chambres qui contiennent des morts. Voici une image de la première. Et quand on voit ça, on se rend bien compte, vous voyez, ils sont disposés un peu comme des figures de cartes à jouer, ils sont tête bêche. Enfin, figure de carte à jouer, ils sont barrés comme ça. Là, ils sont, ils s'appuient l'un contre l'autre au niveau, enfin, genou-pied. Mais il est clair qu'on a un dépôt simultané, c'est-à-dire que la mise en place d'un des individus n'a pas entraîné de perturbation dans l'agencement du squelette de l'autre. Donc, dépôt simultané. Vous en avez un autre ici. Là, ils avaient démonté l'architecture. La première chambre est ici. Vous en avez un autre ici, avec deux individus. Pardon, sur la précédente aussi, vous voyez qu'ils avaient un vase. Chacun avait un vase au niveau de la tête. Ici, même chose. Vous les voyez. Dépôt simultané dans une position différente. Les squelettes sont très bien conservés, mais j'attire votre attention sur le fait que, en revanche, au niveau des crânes, il y a quelque chose. Voici le relevé. Et le troisième, le voici. Ici, on n'a pas de vase, on ne sait pas s'il y en avait un, parce que ce qui est représenté là, c'est une tranchée de l'âge du bronze qui a recoupé la chambre funéraire. Donc, il est possible que la tranchée ait fait disparaître le vase. Peut-être qu'il n'y avait pas de vase du tout. Ou le vase a peut-être disparu. En tout cas, vous avez cette position. Eh bien, quand on voit ça, je n'insiste pas, mais on a la mise en évidence d'un espace vide. Il y a une poutre qui est tombée. Il y avait une couverture à la chambre. Il y a une poutre qui est tombée, ce qui a fragmenté ces os à ce niveau-là. Il y a des offrandes. Hein. Là, vous avez des... Ce ne sont pas des silex. C'est une roche qui a été taillée, qui s'appelle l'opale résinite, mais qui est... toi, tu connais bien ça. Il y a de l'industrie lithique. Il y a des objets qui sont déposés. Les vases et puis ceci. Alors, les fouilleurs, évidemment, ont appelé... les fouilleurs ont dit, c'est la tombe numéro 1, la tombe numéro 2, la tombe numéro 3. Moi, j'aurais dit, écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit des tombes. Ils m'ont dit, mais attends, qu'est-ce qu'il te faut? On a l'architecture, on a les morts et on a les offrandes. Si avec ça, on ne peut pas dire que c'est une tombe, qu'est-ce qu'il faudra du point de vue archéologique pour dire que c'est une tombe? Eh bien, quand même, la première chose qui étonne, c'est que dans la première structure, vous voyez que ce sont deux hommes. Il y a un adulte assez jeune, d'environ 30 ans, et un sujet subadulte. Deuxième structure, deux hommes. Un d'environ 30 ans, un d'environ 20 ans. Dans la troisième structure, deux hommes, un gigantesque. C'est peut-être le plus grand néolithique qu'on connaisse en France pour l'instant. On aura mieux, mais il faisait pratiquement 1,90 m, vous le voyez. Un type absolument gigantesque. Lui, environ 25 ans, l'autre un petit peu plus jeune. Donc trois fois deux hommes. Déposés simultanément. Si vous regardez la dernière des structures que je vous ai montrées, ça, c'est le bonhomme qui faisait à peu près 1,90 m. Vous voyez le vase près de la tête, vous voyez le crâne écrasé, et puis sa colonne vertébrale qui commence à se dégager, vous avez une vertèbre ici, et vous voyez ceci. Et bien ça, c'est une armature de flèche tranchante en silex plantée à la face antérieure de la quatrième vertèbre lombaire. Et là, vous avez la bifurcation de l'aorte abdominale. C'est-à-dire que pour se planter dans l'os, la flèche a forcément traversé l'aorte. C'est une hémorragie cataclysmique. On ne survit pas, même aujourd'hui, à ce genre de blessure. Vous direz, il n'est pas très courant qu'on reçoive une flèche en silex aujourd'hui dans l'abdomen. Mais enfin, on ne survit pas à une effraction de l'aorte abdominale. Et effectivement, il n'y a pas de cicatrisation. Le contraire eût été étonnant. On se dit, tiens, peut-être que je connais les causes de la mort. Je n'en suis pas sûr. Il faut douter. Vous avez la flèche ici. Eh bien, l'autre a une flèche plantée dans la colonne vertébrale, enfin, deux fragments qui ont éclaté au contact de la vertèbre. On voit l'impact. Et puis, il y a trois autres flèches, mais qui, elles, sont dans le sédiment. Donc, on ne sait pas si elles étaient dans les corps ou dans la terre qui est venue colmater secondairement la sépulture. En tout cas, les deux individus ont un impact de flèche et forcément dans des zones où la blessure peut être mortelle. Je ne suis pas sûr qu'il soit mort de ça. Parce que si vous prenez le grand bonhomme qui faisait 1,90 m, voici sa face. Il a pris un gigantesque coup de massue dans la face qui a complètement éclaté le menton. Les incisives centrales supérieures, sous l'impact, ont capoté comme ça. Les racines ont arraché la paroi antérieure des alvéoles et les dents sont tombées sur place. À l'endroit où le type est mort, on ne les a pas trouvées dans la structure. Avec des fractures du maxillaire. Et évidemment, les dents s'entrechoquant, elles se sont écaillées. Et alors, vous avez partout, je crois qu'il y a 12 petites écaillures comme ça. Et vu au microscope électronique, la personne n'a jamais mâché après. Vous voyez ça? Vous avez... Donc, de quoi est-il mort? De la flèche ou de ce coup? Il y a forcément un des deux qui a tué un mort. L'individu était déjà mort. Et ajoutez à ça que tous, et vous allez le voir, ont un grand coup de hache derrière la tête qui fend le crâne en deux, ce qui explique la conservation différentielle du squelette. Il y a une espèce de coup de grâce qui est porté. Ce sont des gens qui sont mis à mort avec des coups répétés. Regardez ça. Celui-ci, un impact à ce niveau-là, un impact à ce niveau-là. Les légistes connaissent parfaitement ça. Cette lésion, c'est à l'emporte-pièce, comme une pièce d'un euro à peu près, avec un cercle tangent comme ça. Puis là, il n'y a pas d'inquiétude, parce qu'à l'intérieur, on a trouvé la rondelle avec le point d'impact. Il n'y a pas de doute sur le diagnostic. Ben, ça, c'est un autre. Rigoureusement au même endroit, le même coup, la même lésion avec le cercle. Alors on ne peut pas conclure que ce sont des gens tués au combat, ou alors il faut que les techniques de combat soient singulièrement répétitives pour qu'à la fin ils aient tous un coup de hache derrière la tête. Enfin bon, il y a quand même des choses tout à fait étonnantes. Lui alors il en a au niveau de la face, il a un impact ici, un impact ici, vous les voyez comme ça. Celui-ci, c'est à la hache. Vous avez l'empreinte de la hache ici, deux coups du tranchant de hache ici. Là, c'est à ce niveau un coup de hache. Sur le pariétal, ici, encore un coup de hache. Lui, il a 11 coups sur la tête. C'est un acharnement qui n'a rien de thérapeutique. Enfin, vous voyez qu'il y a là quelque chose. Alors, bon, ce même individu a en plus un coup de massue au sommet ici, avec un enfoncement. Vous voyez les fêlures, ce qu'on appelle les embarrures, les férules, les fêlures. Et sur la façade de crânienne, on voit que l'os s'est clivé. Ça n'a pas complètement traversé. Ben, un autre a une lésion exactement au même endroit, un impact exactement au même endroit. Ils ont vraiment été mis à mort. Il y a une mise à mort qui est à l'évidence ritualisée. Et puis alors... Vous les voyez derrière le crâne à chaque fois. Là, ils ont donné un petit coup de hache et puis paf. Donc vous avez la trace du premier coup de hache et puis le deuxième qui fend le crâne en deux. Alors, bon, dire que c'est funéraire, peut-être. Mais ce qui est évident, c'est qu'ils ont été mis à mort. Bon. Qu'il y a une mise en scène dans la déposition, je veux dire, il y a un caractère ostentatoire, enfin, il y a une combinaison, une mise en situation, hein, soit l'un derrière l'autre, soit tête bêche. Mise en terre, oui, mais en fait, ce n'est pas exactement en terre, c'est dans des chambres souterraines, il n'y a pas de sédiments qui viennent directement au contact des eaux. Mise en sépulture, ben, peut-être, mais vous pouvez aussi imaginer que ce sont des individus qui sont sacrifiés, et qui sont déposés là, en offrande, au même titre que les vases. Il peut s'agir d'individus mis à mort et ensuite à qui on a donné une sépulture. Il peut s'agir aussi d'individus qui sont sacrifiés et qui sont privés de sépulture, qui sont en état de privation de sépulture. La notion de sépulture, enfin la démonstration archéologique du fait funéraire est extrêmement complexe. Souvent, quand on travaille... pour la période médiévale ou l'Antiquité, quand vous avez des cimetières, des nécropoles, etc., bon, c'est le traitement normal. Mais quand vous tombez sur des choses aussi exceptionnelles, c'est quand même assez délicat. Alors, je surveille le temps. En allant sur des choses un peu plus compliquées, là, vous avez alors, des désastres de masse, je dirais, c'est-à-dire des sépultures, ce qu'on appelait des sépultures de catastrophe, l'inhumation simultanée d'un grand nombre d'individus. Il va falloir prouver d'abord que le dépôt est simultané. On a des arguments taphonomie du cadavre, de disposition des os. Mais une fois que vous avez prouvé que le groupe humain a dû gérer simultanément ou dans un temps très bref un grand nombre de cadavres, ben, il faut se demander quel est l'événement qui a généré cette crise brutale de mortalité. Ici, on est au Chalcolithique, donc on est vers 2000 avant Jésus-Christ, à Roex, c'est près de Vaison-la-Romaine, c'est dans la basse vallée du Rhône. C'est une fouille faite par Jean Courtin. Vous avez les individus en position, en plus ils ont allumé du feu par-dessus, ce qui n'a pas facilité la fouille. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont compliquées. Par exemple, bien malin qui dira à qui ce vase est destiné. Si encore il est destiné à un seul. Parce qu'après tout, c'est peut-être un dépôt pour plusieurs. Eh bien là-dedans, vous allez trouver des armatures de flèches en silex. Là, elles sont parallèles. Il y en a une autre ici et ici. Elles sont identiques. C'est probablement un carquois, mais on a aussi beaucoup de fragments d'armatures tranchantes en silex plantées dans les os. Et Jean Courtin a conclu qu'il s'agissait probablement de ce qu'il appelait une couche de guerre ou de massacre. C'est une des possibilités. Ben, exemple parfait, une fouille à laquelle j'ai été associé, qui a été réalisée en Lorraine par Frédéric Bourrat, Frédéric Adam et Stéphanie Jacquemot. Et il s'agit d'une fosse dans laquelle ont été inhumés 21 soldats et officiers français tués au front le 22 septembre 1914. Et cette fouille a eu un certain retentissement médiatique parce que, tout simplement, parmi les morts se trouve Alain Fournier, l'auteur du Grand Mol. Il est, et donc on a pas mal parlé de ça, il a été possible d'identifier Alain Fournier. Bon, les gens qui ont voulu trouver ça étaient très excités par l'idée qu'ils allaient trouver les os de l'écrivain disparu. Vous savez, franchement, voir le deuxième métacarpien qui était en amont de l'index, qui a tenu le crayon, qui a écrit le Grand Mol, personnellement, ça ne me change pas ma lecture du Grand Mol. Mais enfin, je ne comprends pas très bien pourquoi les gens ont besoin de voir les os d'un mort célèbre. Je ne vois pas l'intérêt. Mais enfin, bon, en dehors de ça, on a dû faire la fouille. Et Frédéric Bourrat m'a téléphoné en me disant, mais de toute façon, Jack Lang impose qu'on fasse la fouille. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et ils ont mené ça comme une véritable opération expérimentale sur la décomposition du cadavre, sur les déplacements des pièces d'habillement, etc. Alors, ben, si vous regardez en détail, on va voir ici, par exemple, on aura des informations sur l'ordre de lâchage des articulations, puisque vous voyez qu'il y a un fémur qui passe de l'autre côté. Ça, ce sont des cartouches qui ont été déversées. Vous avez des éléments de paquetage, par exemple. Alors, vous voyez qu'il y a des chaussures. Je leur ai demandé de prélever les chaussures avec la position, de les disséquer en laboratoire pour voir la migration des os des pieds, pour que nous apprenions à restituer la présence de chaussures. Là, évidemment, il n'y a pas de problème, on les voit. On n'a pas besoin d'autre chose pour dire qu'ils portaient des chaussures, elles y sont. Mais l'intérêt, c'est qu'ensuite, on peut comprendre quel est le mécanisme de déplacement des phalanges à l'intérieur de ce micro-espace vide du gros godillot. Et a posteriori, on a maintenant des moyens de proposer la restitution de chaussures alors que le cuir n'est pas conservé. Évidemment, bon, pour l'époque romaine, quand vous avez les semelles cloutées, ça va bien. Mais alors, on a besoin de beaucoup progresser parce que vous vous doutez bien qu'entre des godillots comme ça ou des tongs, probablement, l'évolution des os des pieds ne sera pas la même. Mais on a besoin de constituer de nos référentiels. Alors là-dedans, ben, qu'est-ce que vous avez? Vous aurez aussi, ici par exemple, vous voyez cette chose effroyable qui est le fracas d'un avant-bras par un impact de balle. Et puis ça, ben ça, c'est un coup de grâce. Avec la balle qui va entrer ici, et au moment où elle sort, elle arrache la moitié du frontal, qui, évidemment, n'a pas été trouvée à l'emplacement. Donc, là, il y a la possibilité, en dehors de l'identification des gens, en dehors des référentiels, il y a bien sûr la possibilité de reconstituer la séquence des événements. Alors, on a aussi des maladies. Là, c'est une fouille de sauvetage qui a été faite dans la ville de Sens, dans l'Yonne, par Didier Maransky, et les numéros que vous voyez, ce sont les numéros des squelettes de la fosse. Donc là, vous savez qu'il y avait au moins 43 morts dans cette fosse. Là, vous voyez qu'on est dans les 60. Je pense que vous n'avez pas trop de peine pour comprendre que le dépôt est simultané. Quand vous voyez les corps qui s'enlacent comme ça, qui sont embrassés, aucun impact, aucune lésion vulnérante, Donc, on a tendance à penser, par exemple, plutôt à une épidémie. Didier Maransky avait fait des recherches d'archives et il avait noté que, puisqu'il n'y a aucun mobilier, il avait noté qu'au début du IXe siècle, il y avait eu une épidémie qui avait décimé la population de la ville de Sens. Mais quand l'étude a été menée dans notre laboratoire, notamment par Dominique Castex, elle a fait procéder à des datations C14 qui ont montré que c'était nettement plus ancien. Et Michel Drancourt, dans la chambre pulpaire des dents, ça c'est un progrès considérable qu'offre la paléobiochimie moléculaire, et bien Michel Drancourt a montré qu'il y avait dans la chambre pulpaire des dents de l'ADN caractéristique de Yersinia pestis, c'est-à-dire le bacille de la peste. Or là, on est à une période qui peut être la peste justinienne. Alors, bon, on a quand même une description, il y a pas mal de choses sur la peste justinienne, mais vous avez des termes parfois employés dans les textes anciens. Quand on vous dit une peste ou une pestilence, c'est parfois une maladie épidémique qui tue beaucoup de monde en peu de temps. Mais ce n'est pas forcément le bacille de la peste. Donc là, vous voyez qu'on est en train de faire des progrès majeurs dans notre approche grâce à l'évolution des techniques, la paléobiochimie moléculaire, dans le diagnostic de ces maladies infectieuses, est extrêmement importante. Parce que quand quelqu'un meurt de la peste, il n'a aucune lésion osseuse. On meurt de la peste bien avant que l'infection n'entraîne des altérations sur l'os. C'est la même chose pour les choléras, c'est la même chose pour les grandes, les grippes, etc. Les grippes qui tuent, ou la rougeole qui tue beaucoup d'enfants, etc. Il n'y a pas de signe observable au niveau du squelette. Et là, on voit s'ouvrir des possibilités. Quand j'ai commencé l'archéologie funéraire, en France, on n'avait pas identifié un seul charnier de peste du point de vue archéologique. On en connaît maintenant des dizaines. Alors, c'est lié au développement de l'archéologie préventive, notamment en contexte urbain. Parce qu'évidemment, les grands charniers de peste, souvent, ils sont liés à des villes, et des villes qui ont continué à être des villes. Donc, c'est souvent sous le sol de nos cités. Mais maintenant, on connaît plusieurs dizaines de charniers de peste en France, et on en trouve en Europe, et on en trouve tout le temps, quoi. Bon. Et la paléobiochimie moléculaire valide éventuellement ce genre de choses. Vous voyez les fouilles. Ça, c'est une fouille récente à Issoudun. Archéologie préventive. Ce sont des fosses qui sont petites. Hein. L'échelle fait un mètre. Donc vous voyez à peine plus d'un mètre de large, 2 mètres de long. Là-dedans, vous avez 20 à 25 cadavres déposés simultanément. Et si vous regardez, en haut, il y a les enfants, et puis vous descendez, et vous avez les individus grands. Donc là, on comprend bien que les gens avaient pratiquement une charretée complète d'individus. Ils ont commencé à mettre les grands, et à la fin, ils ont mis les petits dans tous les trous. Il ne s'agit pas d'une fosse qui a été remplie au fur et à mesure des arrivages. Il s'agit bien d'un comblement, d'un remplissage de fosses avec, si je peux dire, une gestion de l'espace par les fossoyeurs. Vous voyez que ce sont quand même des choses qui sont tout à fait saisissantes. On n'a pas le diagnostic pour l'instant. C'est fin 17e, début 18e, et les archives parlent de famine, d'épidémie non identifiée. Il y a plusieurs causes possibles dans les archives de la ville d'Issoudun. Il y a plusieurs possibilités qui pourraient expliquer ces sépultures. Il y en a 14 qui ont été fouillées. Apparemment, pour la même période, il y a au moins 2 épisodes différents. Donc les recherches sont en cours. Alors, pour terminer, je vous ai parlé évidemment de pathologie du squelette ou des dents, etc. Quand on fait de l'archéologie funéraire, on trouve aussi des objets. On a des parures, on a des vases, on a des armes, etc. Et un jour, un de mes amis, qui était conservateur des fouilles en Midi-Pyrénées, François Rousseau, qui est mort dans une grotte où on travaillait d'ailleurs, François a fouillé un dolmen qui devrait être complètement ruiné dans le Lot, qui devait être détruit à cause de remembrements, enfin de remodifications de parcelles. Et un jour, je vais à Toulouse et il me montre les os, il me demande certains éléments. Puis je lui dis, mais ça m'intéresserait quand même de voir le mobilier que tu as trouvé, le matériel archéologique. Alors il me montre des tessons de poterie, quelques petites perles, les silex, enfin ce qu'on trouve habituellement. Et puis il me dit, tiens, il y avait ce caillou. Et ce caillou, pour lui, cette espèce de galet, on voit qu'il est formé de couches concentriques, et donc il est identifié comme une perle des cavernes, c'est-à-dire des concrétions qui se forment par des successions d'assèchements et de mises en eau, donc croissance concentrique, hein, l'évaporation libérant le carbonate de calcium, donc ça grandit comme ça. C'est blanc nacré, c'est très joli. Et il a dit, bon, les chalcolithiques fréquentaient la grotte, les grottes, donc ils ont ramassé ça et ils ont déposé ça en offrande. Observation tout à fait originale, tout à fait intéressante. Je lui dis, écoute, quand même, passe-le-moi, j'ai un doute. On fait une diffraction de rayon X, et ce qui sort, c'est un phosphate hydraté de calcium et de fer. Or, une perle des cavernes, c'est soit de la calcite, soit de l'aragonite, parce que c'est un carbonate de calcium. Si c'est un phosphate de calcium, tout simplement, c'est un calcul urinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas venu avec un mort, ce n'est pas du matériel d'accompagnement, c'est venu dans un mort. En fait, c'est un énorme calcul de la vessie. Et s'il y a du fer, c'est que tout simplement, il y avait des hémorragies, et la dégradation de l'hémoglobine fait qu'il y a une libération du fer, le pigment de l'hémoglobine. C'est à base de fer. Et là, vous avez donc quelque chose. Alors, au début, je vous ai dit, ça dépend de la curiosité du fouilleur, du sens de l'observation du fouilleur. Mais la plupart des fouilleurs auraient dit, c'est un caillou. François Rousseau, qui était un excellent archéologue, a dit, ce caillou n'a rien à faire là. Bien sûr, il s'est trompé. Il a cru que c'était une offrande, ce n'était pas une offrande. Mais du point de vue scientifique, le geste qui sauve, c'est de récupérer le caillou. Le geste qui tue, c'est de jeter le caillou. Et si on veut faire une enquête sur la fréquence de tout ce qu'on appelle les lithiases, les calcifications biologiques dans les populations passées, il faudrait reprendre systématiquement tous les déblais de fouilles, si encore les fouilleurs ne se sont pas amusés à balancer le caillou un peu loin, parce que c'était un caillou qu'on prenait facilement en main. Et là, vous voyez bien qu'on peut, de temps en temps, accéder à autre chose que l'ostéo-articulaire ou le dentaire. De la même manière, ça, c'est un dolmen, une image prise dans un dolmen que j'ai fouillé près de Carcassonne. C'est effrayant. Les os sont complètement broyés. Il y a les restes d'à peu près 100 personnes. Ce que vous avez là, cette espèce de bouse, si je peux dire, c'est un crâne écrasé. Et on est sur une ancienne terrasse du fleuve Aude, c'est-à-dire que c'est plein de petits galets. Il faut les contrôler tous. Ici, vous en avez un que j'ai photographié par hasard, hein, en photographiant la zone. Au démontage, on les contrôle tous, il faut les laver. Vous voyez que c'est petit, hein, ça fait 13 mm de longueur maximale. Et quand on le regarde, on se rend compte qu'il y a des pellicules, et il y a deux petits noyaux jaunes au centre. Ça a été analysé à Genève par le professeur Beau, qui est à la retraite maintenant, un des plus grands spécialistes de cristallographie biologique au monde, mais en pathologie actuelle. Et la chance pour nous, c'est qu'il s'intéresse à l'archéologie. Le diagnostic est arrivé, absolument ahurissant. Ça, c'est un ganglion tuberculeux d'huile pulmonaire calcifiée. C'est une primo-infection pulmonaire qui s'est calcifiée. Et d'après lui, c'est le plus vieux témoignage mondial de tuberculose pulmonaire. Alors, le plus vieux, ça ne veut rien dire. Bon, je veux dire qu'on trouvera toujours plus vieux. Ça, c'est pas très important. Encore que... On est à réfléchir dans l'histoire de l'humanité. On vous parle du néolithique, de l'avancée du néolithique. Mais les gens qui se mettent à vivre avec les animaux, ils prennent les maladies des animaux. Et la fièvre de Malte, etc., c'est le bienfait du néolithique aussi. Hein. Il faut dire que la néolithisation, ça a aussi entraîné le fait que des maladies animales soient entrées dans l'humanité. Eh bien, là, quand on connaît le poids de la tuberculose pulmonaire sur un groupe humain. Ben là encore, pour moi, ça, en tant qu'archéologue, c'est aussi important que de savoir comment ils décorent leur céramique. La tuberculose dans la vie des gens, dans les conditions de vie des individus, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, essentiel. On préférerait, disons, qu'il n'y ait pas ce côté essentiel dans l'humanité, mais bon, je veux dire que... Et là, c'est bien la responsabilité du fouilleur. Alors, là, j'ai un de mes élèves, bon, qui est médecin en Alsace, qui fouille, là, qui a participé à la fouille de tumulus, de la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Tous les archéologues auraient recueilli ces très grandes boucles d'oreilles en bronze, ce grand collier de bronze. Là, pas de problème. Là, il y a une perle en roche noire aussi. Combien d'archéologues auraient récupéré et noté l'emplacement de ces petites particules qui ressemblent à de la craie humide écrasée? Or ça, c'est tout simplement l'évolution d'une chaîne ganglionnaire susclaviculaire, une chaîne lymphatique, ce qui draine le poumon. Ça, ce sont des ganglions tuberculeux. Cette femme était tuberculeuse et c'est avec ça que c'est démontré. Vous voyez le rôle de l'archéologue, là, la responsabilité de l'archéologue au moment de la fouille. Et là, encore une fois, le diagnostic n'est pas porté tout de suite, mais il est essentiel de dire ça, ça m'étonne, donc je fais un prélèvement, je le mets dans un petit tube et je note l'emplacement par rapport au squelette. 9 fois sur 10, ça n'est rien. Mais la dernière fois, c'est évidemment très intéressant. 2 images, c'est fini. Je dois également à François Lambach la connaissance de ceci. Cette espèce de capsule a été trouvée dans l'orbite d'un crâne néolithique, trouvé sur le site d'Ensheim, en Alsace. C'est là que se trouve l'aéroport de Strasbourg. Et c'est un gisement éponyme du néolithique alsacien. Et il y a un fouilleur qui était un fouilleur amateur, qui a dégagé un squelette et qui s'est rendu compte que les deux orbites, c'était un adulte, que les deux orbites n'avaient pas tout à fait la même dimension. Et alors, au lieu de faire ce que les fouilleurs font souvent, vous savez, sous le robinet, on vide les orbites avec le pinceau comme ça, etc., il a méticuleusement fouillé l'intérieur des orbites. Et dans l'orbite la plus petite, il a trouvé ça. Une capsule qui fait 23, ovoïde, qui fait 23 mm de long, de diamètre maximal, avec un petit trou. Et de l'autre côté, on voit que c'est fait de pellicules concentriques emboîtées. C'est de l'os. En fait, c'est une maladie qui est bien connue en pathologie ophtalmologique, un ostéome de la choroïde. La choroïde, c'est une des enveloppes de l'œil. Et ça peut s'ossifier. C'est une maladie tellement rare que quand on la rencontre en pathologie actuelle, on la publie. Là, on a un cas qui est un des cas les plus étendus et qui a à peu près 5 ou 6 000 ans. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est une maladie qui se développe forcément sur un œil mort. Et ce que vous avez là, c'est tout simplement l'orifice sorti du nerf optique complètement atrophié. C'est-à-dire que c'est un néolithique qui, dans son enfance, a perdu un œil, ce qui explique que l'orbite n'a pas grandi. Non pas parce que le globe n'a pas grossi, mais vous savez qu'à l'intérieur de l'orbite, autour du globe oculaire, on a tous les muscles oculomoteurs qui orientent sans arrêt, si vous voulez, réajustent la direction du regard. Si l'œil est mort, évidemment, ces muscles s'atrophient. Et donc, dans la croissance, l'orbite reste un peu plus petite. Et en fait, donc, c'est un enfant qui a perdu un œil, on ne sait pas pour quelle cause, relativement tôt, qui a survécu, donc encore... pas imaginer que les néolithiques éliminaient les enfants s'ils se crevaient un œil. Mais enfin, on a l'exemple de la vie de quelqu'un qui a, au néolithique, perdu un œil dans l'enfance, a vécu jusqu'à un âge relativement âgé et qui a développé ça. Donc c'est intéressant pour l'histoire de la maladie. C'est aussi intéressant, finalement, parce que ça nous raconte la vie un peu particulière d'un sujet. Et ce cumul d'anecdotes, c'est peut-être de la petite histoire. Mais quand on n'a aucun texte sur le néolithique, on a besoin de témoignages. Je veux dire, on ne fait pas que de la grande histoire. Dans l'archéologie, on a besoin d'un cumul d'informations qui finissent par dessiner un paysage humain. Et pour terminer, on en revient à la grotte dans laquelle il y avait l'humérus pathologique qui a été découpé. Il se trouve que les néolithiques, avec leur mort, ont apporté un sédiment d'une couleur un peu étonnante, un sédiment de teinte jaune, dont l'analyse a prouvé que c'était ce qu'on appelle de la terre de Sommière. C'est une terre qui a la propriété d'absorber les graisses. On trouvait ça dans les vieilles drogueries. C'est un peu maintenant dans les drogueries pour baba, mais enfin, on connaît ça. Sommière, c'est un village, une petite ville qui est juste à côté de l'endroit où on a fouillé, qui est à moins de 15 km. Bon, maintenant, l'exploitation est terminée. Si vous achetez de la terre de Sommière, ça s'appelle toujours comme ça. Elle vient, il y a encore une dizaine d'années, ça pouvait venir d'Italie. Maintenant, pratiquement, elle vient systématiquement du Maroc. Mais bon, ce sont les mêmes états géologiques, ce sont les mêmes propriétés. Mais il se trouve que les néolithiques ont mis avec leur mort un sédiment exogène qui avait la capacité d'absorber les produits de décomposition du cadavre. Et ce qui est tout à fait phénoménal, c'est que on en a fait des prélèvements, vous voyez qu'il y avait des amas assez considérables, et à l'examen microscopique, ça fait 55 microns de long, donc vous ne le voyez pas à la fouille, Eh bien ça, c'est un œuf de parasite intestinal néolithique. C'est-à-dire que dans la décomposition du cadavre, évidemment, le sédiment s'est enrichi en phosphate par les produits de décomposition, mais comme ça a pompé tous les jus de décomposition, ça a aussi absorbé des éléments qui étaient en relation avec des parasites qui se trouvaient dans le tube digestif. Alors ça n'est pas un scoop, si je peux dire, parce que le trichocéphale, ce parasite qui avait disparu de France, qui est revenu maintenant avec les voyages des personnes qui vont outre-mer, etc. Bon, mais le trichocéphale avait disparu de France. En revanche, dans les coprolites, dans les excréments qui s'étaient conservés dans en milieu lacustre, dans le Jura, etc., il y avait eu des analyses d'excréments humains qui avaient été faites, et ces excréments parfois contenaient des œufs de trichocéphale. Donc on savait très bien qu'il y avait déjà le trichocéphale à cette époque chez nous, mais là, c'est quelque chose qui corrobore parfaitement le fait que ça absorbe bien, ça a bien absorbé les produits de dégradation des cadavres. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez, j'ai essayé de faire un grand galop, un parcours un peu dans toutes les directions, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que pour moi, la paléopathologie est totalement indissociable de l'archéologie. À la fois parce que le geste archéologique conditionne pour une large part le diagnostic, mais à l'inverse, parce que la paléopathologie nous apporte des informations sur ce qu'était la vie des populations passées, le comportement, enfin, etc. Voilà, je vous remercie.
D'investigation, parce que c'est vraiment d'investigation, il y a un côté aussi passionnant.
Oui, il y a un côté.
Enfin, ces histoires, et on est aussi très sensible au fait de vous parliez du handicap, en effet, oui. Et aussi du fait que vous disiez. Bon,
je parle devant un public dans lequel se trouvent des historiens, des vrais historiens. Moi, je ne suis pas un historien. Je contribue à l'histoire parce que je suis un archéologue, mais je n'ai pas personnellement de formation d'historien. Donc je suis toujours un petit peu gêné en disant pour moi c'est de l'histoire, bon, parce que mais quand même je n'hésite pas à le dire parce que c'est une autre façon de faire de l'histoire, mais je pense que c'est aussi une façon de faire de l'histoire. Ça s'inscrit, il y a une très bonne complémentarité. Et d'ailleurs, j'évoquais, on a vu la fosse d'Alain Fournier. Ben maintenant, bon, comme Luc le disait, je forme des gens à l'archéologie funéraire. Et maintenant, on commence à avoir des demandes. J'ai une de mes élèves qui a été recrutée par le tribunal pénal international pour exhumer des cadavres en Bosnie ou des choses comme ça. Et ça s'ouvre. Et là, on sait très bien qu'il faut une compétence archéologique. L'histoire contemporaine se nourrit normalement des archives, qu'elles soient écrites, qu'elles soient audiovisuelles. Mais dès que vous avez des crimes contre l'humanité, dès que vous avez des éliminations arbitraires d'opposants, ben, il faut bien s'attendre à ce que les archives soient détruites, soient falsifiées. Et donc là, on rejoint complètement les enquêtes médico-légales. Là, on y est en plein. Hein. Enfin, c'est...
Bonsoir.
Bonsoir.
J'aurais aimé connaître l'âge de la dame qu'on a retrouvée en Corse.
Alors, quand j'ai fait cette étude, j'étais, j'étais médecin au CHU de Montpellier. Enfin, je terminais et je n'étais pas encore au CNRS. Et à l'époque, j'avais appris qu'on pouvait déterminer l'âge à partir des sutures crâniennes, etc. C'est-à-dire que j'avais dit que cette femme avait à peu près 45 ans. Aujourd'hui, l'anthropologie a fait des progrès considérables. C'est-à-dire que nous savons que Ben, nous savons que nous ne savons plus déterminer l'âge d'un adulte avec une telle précision, c'est-à-dire que nous pouvons dire un adulte jeune. Bon, jusqu'à 30 ans, on a des marqueurs de croissance. Bon, ça, ça va bien, si le squelette est suffisamment complet. Ensuite, on a adulte d'âge moyen, puis adulte âgé. On n'a pas... La sénescence du squelette est un processus extrêmement variable d'un individu à l'autre. Ce n'est pas une jeune femme, vous vous en doutez. Bon, elle peut avoir eu 40 ans, mais elle peut très bien avoir eu 60 ans ou 70 ans. Et finalement, on ne sait plus... on ne sait plus déterminer l'âge d'un individu. Alors, si vous regardez les feuilletons télévisés, Bones, etc., alors là, bon, eux, ils vous disent que c'est... les légistes sont plus précis que nous parce qu'ils travaillent sur des populations dont la croissance et les conditions de vie sont beaucoup plus stéréotypées. Nous, nous devons évidemment avoir des références qui tiennent compte de la variabilité entre les groupes humains, entre les conditions de vie, les conditions d'alimentation, etc. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas une jeune femme, ça c'est évident. Maintenant, est-ce que c'est une femme d'âge... Si vous me demandez si elle était ménopausée, je ne suis pas capable de vous le dire. Non, mais à Pompéi, j'ai des cas de femmes pour lesquelles je sais qu'elles étaient ménopausées parce qu'elles sont complètement déminéralisées. Elles ont beaucoup d'arthrose et la déminéralisation est telle que très, très probablement, il faut penser à un facteur endocrinien. Pour elles, je n'en sais rien. Là, je n'ai pas d'éléments qui... Ça serait intéressant de savoir ce genre de choses, mais...
Voilà. Là, oui, c'est vrai, ce serait surtout pour ces populations-là, mésolithiques, néolithiques, par rapport justement à la structure sociale. Et comme on sait que cette femme-là était handicapée, qu'elle était prise en charge par ses proches, enfin ses proches, je ne sais pas,
oui,
la
enfin,
structure
le
familiale,
groupe,
mais pour
oui,
le groupe.
Oui.
Et justement, savoir si c'est des individus plutôt jeunes ou alors si on garde... Enfin, si on garde... Oui, pourquoi pas,
oui, oui.
Débarrasserait des personnes âgées.
Oui, vous savez, la néolithique grabataire et incontinente, jeune ou pas jeune, ça devait représenter énormément de travail et énormément de... Avec... Enfin, nous savons qu'il n'y avait pas de possibilité de récupération. Eux ne le savaient peut-être pas, je n'en sais rien, mais... Voilà, non, le polytraumatisé, c'est apparemment un type assez âgé. Ce qu'il y a, c'est qu'elle, je ne sais pas à quel moment elle a eu son traumatisme. C'est longtemps avant le décès. Elle était adulte, ça, je le sais. En revanche, si elle est morte à 50 ans, ça peut être entre 20 et 50, hein, à n'importe quel moment. Donc, ça, là, vous touchez du doigt les limites aussi de nos connaissances. Il faut accepter de ne pas tout savoir. Oui.
Attendez, monsieur, je suis obligée de vous donner le micro.
Quelles étaient les raisons des trépanations?
Alors, évidemment, on ne le sait pas puisqu'ils ne nous ont pas laissé de texte. Ça, c'est le premier point. À quoi sert la trépanation? Je dirais qu'il y a deux justifications essentielles. La première justification, c'est évidemment une voie d'accès quand on veut faire de la neurochirurgie. Quand on voulait faire maintenant avec les microsondes, etc., bon, c'est autre chose. Mais jusqu'à une date récente, bon, évidemment, si vous vouliez faire une intervention sur l'encéphale, il fallait ouvrir un volet pour accéder au cerveau. Bon, ça, les neurochirurgiens pratiquaient les trépanations. Bon, je crois qu'on peut penser raisonnablement que la neurochirurgie, la micro-neuro... Même si les mésolithiques avaient des microlithes, ce n'était pas pour faire de la microchirurgie cérébrale. Bon, je ne pense pas vraiment à ça. En revanche... si vous avez un processus qui se développe au niveau du cerveau, dans la boîte crânienne, qui gagne en volume, ben, la boîte crânienne, c'est une boîte inextensible. Donc, la pression augmente. Et puis, tout d'un coup, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un engagement, c'est-à-dire que la pression est telle que le cerveau essaie de sortir par le trou occipital. Et vous avez le bulbe rachidien qui se coince. C'était très classique. Quand vous avez un accident de la voie publique, quelqu'un tombe à une perte de connaissance, un choc sur la tête, une perte de connaissance. On vous dit qu'il faut hospitaliser et il faut que la personne soit gardée pendant quelques jours avec un électroencéphalogramme. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une toute petite fêlure, pas visible à la radio, mais avec une petite déchirure d'une artère. Et l'artère saigne entre la méninge, la dure mère, et la paroi crânienne. Et l'hématome grossit. petit à petit, il exerce une pression sur le cerveau. La personne pourra, hypertension intracrânienne, les signes, une céphalée très intense, des douleurs, des maux de tête très intenses, une photophobie, la personne qui craint la lumière, une raideur de la nuque et souvent des vomissements brusques, comme ça. C'est le syndrome méningé. Ça se révèle, et bien sûr, crise d'épilepsie, qui est un signe de souffrance de l'encéphale, simplement. Bon, il peut y avoir des causes multiples. Et parfois, autrefois, quelqu'un avait pris un choc comme ça. Bon, puis il reprenait connaissance, ça va bien, il repartait. Et puis, une semaine après, tout d'un coup, paf, il mourait. C'était l'engagement, c'est-à-dire que l'hématome avait fini par claquer et le cerveau passait à travers. Donc là, la trépanation, c'est tout simplement la soupape de sécurité. C'est-à-dire que si vous ouvrez, la méninge va faire saillie. Alors évidemment, si c'est une tumeur cérébrale, la tumeur continue à se développer et elle peut aboutir à l'exitus de l'individu. En revanche, s'il s'agit d'un phénomène transitoire comme une hémorragie, l'hémorragie finit par s'arrêter, l'hématome se résorbe. Et puis c'est fini. Là, ça a sauvé. On reconnaît quelques trépanations sur fracture du crâne. Donc, il est possible. Alors, on a aussi des exemples ethnographiques qui n'ont pas valeur de démonstration, mais on sait que quand des gens ont pu interroger des personnes qui pratiquaient ces trépanations empiriques, eh bien, quels étaient les signes ? L'épilepsie et des douleurs de tête très intenses. Avec cette image, bon, il y a un démon dans la tête, on ouvre une fenêtre pour que le démon s'en aille, enfin, on a parfois des représentations comme ceci. Il n'est pas impossible qu'il y ait donc eu une connaissance par l'observation, je dirais une mise en relation, et que les gens aient trépané. Apparemment, dans quelques cas, ils ont trépané à bon escient. Maintenant, très sincèrement, sur le rebord des côtes du Larzac, ou bien il se flanquait régulièrement des coups sur la tête et alors il fallait trépaner souvent, parce que vous avez des individus qui ont été trépanés, il y en a un qui a été trépané 4 fois quand même. Voyons, on n'a pas évidemment on est sur des périodes sans texte, donc on n'a pas d'éléments. On a quand même quelques éléments qui nous orientent. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu des trépanations qui aient réellement eu une valeur curative. Voilà.
Attendez, madame, parce que c'est des questions, je passe le micro.
Est-ce qu'il y a il pourrait y avoir des trépanations quand elles étaient importantes, comme ça, comme sur des sites à caractère rituel?
Bon. C'est possible. Vous savez, de toute façon, dans certaines sociétés, les personnes qui pratiquent ces gestes peuvent avoir aussi une fonction religieuse, peuvent avoir... Donc, on peut l'imaginer. Le fait de trouver, effectivement, une rondelle de trépanation perforée, portée en pendentif, peut-être que c'est un geste banal, purement esthétique, et peut-être qu'il y a une connotation. Malheureusement, on n'a pas de représentation. Si on avait des représentations de trépanation au cours de cérémonies ou de choses comme ça, on pourrait. Là, malheureusement, c'est tout à fait envisageable, l'hypothèse que vous évoquez. Mais en même temps, nous sommes... évidemment, si trépanaient tous ceux qui avaient mal à la tête un jour... on aurait tous au moins un trou dans le crâne. Mais enfin, bon. Donc je ne peux pas vous répondre parce que je ne le sais pas, tout simplement.
Moi, je veux savoir, au niveau des sépultures, là, est-ce qu'il n'y aurait pas des traces de feu, des fois?
Dans les sépultures?
Oui, de l'époque, je parle.
Ça dépend. Alors, évidemment, pour les crémations, oui, bon, sans doute. Mais des traces de feu, pourquoi? Vous voulez dire... parfois, oui. Alors, parfois, les feux sont à côté, parfois, les feux sont avant, parfois, les feux sont après. Il y a des sépultures pour lesquelles on n'en a pas. Évidemment, dans les contextes d'incinération, c'est une évidence. Mais parfois, les bûchers sont à l'extérieur de la tombe. Parfois, on a les tombes bûchées, ce que parfois on a appelé boustoum, c'est un mauvais terme, mais avec une fosse à l'intérieur de laquelle on allume le bûcher. et le mort brûle dans la tombe, et on ferme la tombe, parfois en déposant des offrandes. Donc des traces de feu. Là, le problème, c'est que vous avez vu, j'ai fait un grand galop un peu dans toutes les... avec des incursions un peu dans toutes les périodes, et donc je ne peux pas vous répondre... ça n'a pas une valeur uniforme. Il y a des sépultures dans lesquelles on a des feux. On n'a pas de notion particulière de feu, je dirais, pour tuer les germes ou des choses comme ça. Disons que, par exemple, je ne connais pas pour l'instant de charnier de peste sur lesquels on ait fait ensuite des très grands feux ou des choses comme ça. Parce que c'est une des questions qui se pose. L'autre problème, c'est que par rapport à ça, souvent on voit mentionner de la chaux. Et le problème, c'est que dans bien des cas, quand les analyses ont été faites, ce n'est pas de la chaux, c'est du plâtre. Il n'y a pas du tout la même fonction. Et notamment, Dominique Castex, dont je vous ai parlé, fouille en ce moment, enfin, avec la commission pontificale d'archéologie sacrée, une catacombe à Rome. Et dans cette catacombe, il y a probablement plusieurs milliers de morts, mais déposés simultanément. Je veux dire, c'est un secteur très, très particulier de la catacombe, mais les individus sont déposés ensemble, mais ils sont enveloppés dans du tissu qui est parfois conservé ou dont les traces sont marquées. À l'intérieur, il y avait le cadavre, mais le cadavre était avec du plâtre et parfois de l'ambre pilée. Et enveloppé. Quand on a vu du blanc partout, de la poudre blanche, on a dit bon, c'est de la chaux, il y a énormément de cadavres, c'est de la chaux. L'analyse a montré que ce n'était pas de la chaux, que c'était du plâtre. L'ambre, bon, c'est par rapport aux maladies infectieuses, enfin, on a des textes dans l'Antiquité, le plâtre, on ne sait pas. Des feux.
Oui, dans les sépultures préhistoriques.
Alors, par exemple, dans la grotte de Corcone, oui, on a des feux, mais le problème, c'est qu'il y a aussi la nécessité de s'éclairer. Quand vous êtes dans le monde souterrain, donc on a des foyers, oui, on a des feux qui fonctionnent, on a même des braseros, on a des vases dans lesquels on sait qu'ils ont mis des braises parce qu'on a un recuit qui est interne. Et on en a même trouvé avec du charbon, etc. Il y a des choses comme ça. On n'a pas, en tout cas, on n'a pas de feu sur les morts dans ces grottes-là. Voilà.
On a beaucoup travaillé ces dernières années en histoire médiévale ou moderne sur la lèpre. Est-ce que la paléopathologie a aussi amené des avancées sur ce domaine-là ?
Alors, amener des avancées, oui et non. Je veux dire par là que la lèpre, c'est une maladie bien connue. C'est une maladie... on a quand même beaucoup d'indices. Il y a des textes. Et puis, bon, évidemment, il y a des toponymes évocateurs d'une maladrerie, etc. Enfin, bon, des lazarets, des... Bon, il y a des cimetières de maladrerie qui ont été fouillés. Alors le problème, est moi je pense qu'une des questions historiques serait de savoir si tous les gens qu'on a dans ces cimetières étaient des lépreux ou pas. Bien sûr que très probablement non. Hein. C'est quand même le problème des lésions commençantes, des lésions très caractéristiques, on en a. Mais ça pose aussi des problèmes de fouilles. Moi j'ai été appelé en expertise sur un chantier d'archéologie préventive en France. Dans un endroit qui s'appelait Lazaret, ou Saint-Lazare, je ne me rappelle pas. Bon, il y a quand même déjà, on se dit, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ? Or, les sujets étaient couchés sur le dos, et ils étaient avec la tête très légèrement surélevée. Conclusion, quand les archéologues fouillaient, les fosses avaient été repérées, et ils descendaient évidemment à la truelle. Et d'une manière tout à fait inconsidérée, ils commençaient la fouille par une extrémité, qui était l'extrémité de la tête, parce que c'est là qu'ils allaient arriver le plus vite sur le squelette et repérer le niveau du squelette. Ils voulaient descendre. Le problème, c'est que premier coup de truelle passait là. Pardon. Et la lésion osseuse la plus précoce dans la lèpre touche l'épine nasale antéro-inférieure. C'est-à-dire que la méthode de fouille que les archéologues avaient choisie pour arriver au niveau du squelette, au premier coup de truelle qui rencontrait l'os, détruisait de manière définitive la possibilité de diagnostic précoce de la lèpre sur les squelettes. Là, je vous garantis que la personne qui se prétendait anthropologue et qui s'était fait recruter sur le chantier n'a pas continué l'archéologie funéraire. Parce que je pense que c'est inadmissible quand on recrute quelqu'un qui a une spécialité, qui prétend avoir des compétences, si la personne n'est même pas capable de se renseigner sur la lésion, c'est-à-dire qu'on fouille un cimetière de léproserie, enfin, présumé de léproserie, qu'est-ce qu'on attend du dégagement des os? Ben, évidemment, d'abord, une discussion de la lèpre. Enfin, donc, il y a, on a des centaines, enfin, il n'y en a pas énormément hein, de cimetières de lépreux qui ont été fouillés. Je sais que Damien Jeanne a travaillé sur quelque chose. À un moment, Toiti s'était excité, mais je crois qu'il n'a pas... Je ne sais pas s'il a... Je crois pas qu'il ait fouillé. Enfin, il avait parlé de ça à un moment. Il y a des choses qui ont été trouvées. Christian Thoreau à Tours a fouillé. Il m'a montré des squelettes qui étaient manifestement avec des lésions typiques de lèpre. Quoi. Mais... Je ne sais pas exactement. Pour l'instant, on n'a pas la finesse de diagnostic. Quand la lésion était, les lésions sont très avancées, on n'a pas de problème de diagnostic pour dire c'est une lèpre. Mais dire qu'il y avait des lépreux dans les léproseries, c'est pas une découverte gigantesque. Quoi. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est de dire, de savoir quelle était la proportion de gens qui étaient atteints ou pas atteints, ou des choses comme ça. Et là, on n'a pas peut-être encore la finesse du diagnostic.
Et la durée de leur présence.
Oui, mais ça, c'est très difficile parce que. Le problème, là, j'ai travaillé récemment avec quelqu'un qui s'appelle Joël Coste, qui est directeur d'études à l'EPHE, qui est un épidémiologiste, qui a succédé à Daniel Gourevitch, et qui travaille notamment sur les hôpitaux militaires. Et alors, sur les archives, il épluche tout ça. Et on voit très bien que les types viennent, mais éventuellement repartent et reviennent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent se faire enterrer là, mais qui, pour autant, n'y étaient pas tout le temps. Donc la durée du séjour, moi, je ne sais pas si voir le mort dans la tombe nous parle de la durée du séjour de l'individu à l'intérieur. Ça, ce sont plutôt les sources. Je pense que ce sont des choses que nous ne serons jamais en mesure de traiter.
Qui sont également ambiguës, en général.
Hein ?
Qui sont également très ambiguës, en général.
Oui, peut-être. Mais là, tu abordes une chose dont j'imagine que nous serons toujours incapables. Hein, je ne sais pas très bien comment on peut... Nous, on voit un état final. Le squelette nous raconte une partie de la vie de l'individu. Hein, le squelette enregistre des maladies, des séquelles de maladies. Maintenant, alors on peut dire, oui, il a été entretenu, il a été alimenté, il a été immobilisé, il a été... Mais après, entre le moment où le type a réparé sa fracture et le moment où il est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais rien. Et malheureusement, je ne le saurais pas. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur. On est obligé d'arrêter. Merci beaucoup.
Je vous en prie.